Cube Radio.
Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amené au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amené voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer.
Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis.
La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
Alors, nouvelle saisie de drogue.
80 000 doses d'héroïne.
Cette présence accrue de fentanyl.
Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal.
Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos, PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
Aujourd'hui, on vous parle d'un personnage fascinant. Je pense qu'il n'y a pas de mots vraiment qui fonctionnent mieux que ça. C'est une histoire absolument folle. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant de faire ce podcast. Lucien Rivard, c'est un petit Québécois né à Montréal au début de la Première Grande Guerre mondiale. Un petit gars de famille ouvrière qui est devenu un des plus grands narcotrafiquants, un des plus importants criminels de l'histoire du Québec, même de l'histoire du Canada, je dirais. Peut-être plus.
Peut-être même de l'Amérique du Nord aussi.
Ouais.
Donc, Lucien Rivard, il est décédé en 2002. C'était un homme très discret. On le connaît très peu, mais il a été impliqué dans des événements majeurs, puis ces événements-là ont vraiment marqué l'histoire.
C'est une histoire qui a plein de tentacules, beaucoup de personnages, et c'est très compliqué. On va essayer de s'en tenir au récit principal pour pas trop vous mélanger. Le récit principal étant Lucien Rivard, un des plus grands narcotrafiquants de l'histoire de l'Amérique du Nord, qui a trafiqué pour des milliards de dollars d'héroïne, qui a joué un rôle primordial dans la célèbre French Connection, qui s'est évadé de prison de façon spectaculaire et qui aurait peut-être été impliqué dans la mort de JFK.
Bon, là, c'est sûr, il est pas là pour nous parler. On l'a dit, il est mort. Mais même s'il était vivant, je pense qu'il nous parlerait pas de toute façon. Donc, on va amener trois personnes dans cette émission-là qui en savent pas mal sur cette histoire-là. D'abord, le producteur Michel Trudeau. Et on va aussi ramener dans tout ça l'ancien agent du Drug Enforcement Administration aux États-Unis, Mike Vigil. Et finalement, Robert Côté. Ça a été une rencontre assez spéciale qu'on a faite. Un policier à la retraite qui a participé à l'arrestation de celui qu'on surnommait le gentleman cambrioleur.
Michel Trudeau, je suis à l'origine psychologue, mais je suis producteur aussi d'émissions de fiction télévisée.
Michel Trudeau, c'est donc le producteur de séries à succès comme Unité 9, District 31, Rupture, plein d'autres. Il est le conjoint et partenaire d'affaires de Fabienne Larouche. Il n'a jamais connu Lucien Rivard personnellement, mais il est tout de même devenu, je dirais, obsédé par son histoire. Obsédé parce qu'il en a fait un film, Le piège américain, qui est sorti en 2008, puis un documentaire intitulé La vérité, toutes les vérités sur Lucien Rivard, qui a été diffusé la même année. On l'a donc invité en studio pour qu'il nous présente toutes ces vérités. Lucien Rivard,
oui.
Comment est-ce que ce nom-là est arrivé sur votre radar? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce personnage?
C'est un enchaînement de hasard. On remonte peut-être en 2003-2004. Je lis un roman policier qui s'appelle American Tabloid de James Ellroy. Puis il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Pete Bondurant, qui est un francophone, un Québécois. qui est mêlé à l'affaire Kennedy, c'est-à-dire à l'assassinat de John Kennedy. Puis là, je me dis, ah, c'est bizarre, ça, un Québécois, pourquoi il a mis un Québécois là-dedans? Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, on est avec Paul Hood et Paul Arcan, et puis on parle de toutes sortes de choses. Et puis là, Paul, les deux Paul d'un commun accord disent ben oui, c'est sûrement Lucien Rivard, ça, parce que Lucien Rivard était là, puis il y a une histoire autour de ça, il y a un type qui a écrit un livre là-dessus. Puis aujourd'hui, Lucien Rivard il s'est fait faire de la chirurgie plastique, il est en France apparemment, il est caché, on sait pas où il est. Fait que ça, c'est le début de l'histoire. Après ça, à un moment donné, comme par hasard, on s'en va manger. À ce moment-là, M. Blanchard faisait Musical, une série qu'on produisait.
Félix, qui est Claude Blanchard?
Là, Brigitte, là, Claude Blanchard, c'est probablement Monsieur Crooner au Québec. C'est l'un de nos artistes les plus connus et ça fait longtemps qu'il existe.
Mais à quelle époque?
Il est mort. Il est né en 1932.
Okay. Un peu avant mon époque.
Il a joué dans plusieurs films. Il était ami avec Frank Cotroni quand il était jeune, Claude Blanchard. Donc, il a toujours existé, si tu veux, dans son parcours artistique, en parallèle avec le parcours criminel de plusieurs des grands criminels du Québec.
Comme un Frank Sinatra québécois?
C'est comme un Frank Sinatra québécois.
Donc, quand on va manger deux semaines après, suite à la rencontre avec les deux Paul, naturellement, on parle de ça avec Claude Blanchard, qui me dit, voyons donc, il est pas mort, il est dans son condo à l'Île-Patton. Puis il dit, ça fait des années qu'il est là. Alors, c'est comme ça que là, on s'est dit, ah, quel personnage intriguant. Il y a toutes sortes de témoignages, toutes sortes d'informations qui viennent au sujet de ce bonhomme-là, dont on sait rien, à peu près rien.
When I was with DEA, you know, I started to look at.
Donc, Mike Vigil, qui, je le rappelle, a infiltré les plus grands cartels du monde, a supervisé les opérations internationales de l'agence antidrogue américaine, dit qu'il a dû étudier tous les grands criminels de l'époque et que Rivard était un des personnages les plus importants et fascinants, qui avait non seulement été narcotrafiquant, mais qui avait aussi géré des casinos, fait le commerce d'armes. Alors, c'était vraiment quelqu'un qui devait étudier parce que ça le permettait de mieux comprendre la criminalité nord-américaine.
Well, keep in mind that Rivard was very well known.
Donc, il dit que c'est un personnage majeur dans le trafic d'héroïne. J'insiste, je souligne, un caractère gras, trois fois.
Major player in the heroin trafficking, you know, throughout the Canada. He was actually the number one man in that trade. And then
numéro un dans ce commerce-là et partner de Giuseppe Cotroni. Alors, M. Cotroni, provenant du clan Cotroni, c'était les chefs de la mafia avant que les Siciliens prennent le pouvoir. Donc, c'était des Calabrais et eux régnaient sur la ville. Ils étaient intensément dans la corruption politique, l'organisation d'élections. Tu sais, c'était l'époque de la Grande Noirceur aussi. Il faut bien se penser de le mentionner quand ils étaient là, en partie, en tout cas, au début de leur règne. Et ils tiraient les ficelles du pouvoir à Montréal, comme ils tiraient les ficelles des affaires criminelles également.
Et Lucien Rivard baignait là-dedans, c'était son réseau, ça.
Big time.
Mais il était quand même sous le radar. Pour le commun des mortels, Lucien Rivard, c'était pas quelqu'un qui était aussi flashy que les Cotroni. C'était genre leur courtier, je dirais.
Oui, on pourrait dire que c'était un homme, c'est devenu un homme de main ou un associé, si tu veux.
Un associé.
Parce que le clan Cotroni avait beaucoup d'associés canadiens-français à l'époque.
On a demandé d'abord et avant tout à Michel Trudeau de nous décrire Lucien Rivard parce que je pense que ça aide à le visualiser.
Mais écoute, c'était un monsieur qui passait inaperçu. Là, tu l'aurais vu dans la rue, tu aurais dit, oh, c'est un monsieur. Tu n'aurais pas dit, wow, tu sais. C'est quelqu'un que tu perds dans la foule, que tu vois pas, qui a l'air de rien, qui est pas spécialement beau, qui est pas spécialement laid, qui est pas, tu sais, c'est... Ben, Lucien, c'est un petit gars qui est né dans Villeray, qui était dans, d'une famille nombreuse, mais qui c'était pas une famille riche nécessairement, mais c'était un aventurier. Il cherchait des émotions fortes, mais il voulait toucher à toutes sortes de choses. Puis en vieillissant, il s'est approché du crime organisé de l'époque, qui était surtout italien. Mais il est toujours resté outsider. C'est pas quelqu'un qui a fait partie d'une organisation. Et l'avantage que Lucien avait, c'est qu'il parlait français, il parlait anglais, il parlait espagnol. Donc tout de suite, ça, vis-à-vis des relations, un peu plus tard, quand on parle fin des années 50, début des années 60 avec la French Connection, ça lui a donné un gros avantage.
Italien aussi.
Oui.
Parfait.
Donc, il passe de petit voleur et après ça à grand narcotrafiquant quand il s'implique avec la French Connection. Dis-moi un peu comment il a commencé à naviguer dans les importations d'héroïne avec les Corses, parce que ça, c'est une histoire qui est typiquement québécoise, parce qu'il y a beaucoup de Québécois d'impliqués dans ça, dont lui principalement, mais c'est une histoire dont on a parlé à travers toute l'Amérique. La French Connection, c'était énorme.
Ben, la French Connection, ça s'appelle la French Connection parce que c'est parti de Marseille. C'est une alliance entre le crime organisé américain, la mafia sicilienne et les Corses, et aussi les services secrets français, pour introduire de la drogue aux États-Unis via des, entre autres, ils prenaient la drogue, ils la mettaient dans des autos, puis ils faisaient venir aux États-Unis, puis c'est comme ça, ils ont importé des sommes considérables de drogue aux États-Unis. La French Connection.
Et c'était de l'héroïne.
Ouais.
Oui. Mais il y avait besoin de francophones, justement, parce que pour faire du commerce avec
Marseille. Tu te replaces au niveau des années 40. Le crime organisé, c'était après la prohibition, l'alcool, c'était plus ça. Il y avait le jeu, il y avait la prostitution. Mais rapidement, avec la découverte d'héroïne, puis des effets, puis la cocaïne était déjà là depuis un bout de temps, mais ils se sont dit, on peut faire un commerce avec ça, puis c'est très payant. C'est comme ça que la mafia sicilienne a vraiment émergé au niveau mondial.
Là. Alors que la mafia, avant, dans ses règles ancestrales, c'était prohibé pour les jeunes mineurs de toucher au commerce des narcotiques. Dans le fond, la French Connection, ça désigne presque la totalité des acteurs qui ont pris part à l'exportation d'héroïne aux États-Unis. Puis ils ont pu avoir un pipeline d'héroïne assez important pour inonder le marché nord-américain. 20 tonnes d'héroïne par an aux États-Unis.
Grâce à la French Connection.
Mais d'ailleurs, dis-moi, je pense que il y a aussi un bon lot d'héroïne qui est arrivé dans le port de Montréal. C'était pas direct. Les routes, c'était pas nécessairement directement vers les États-Unis.
Ben, le port de Montréal, il y a eu apparemment une barge qui est passée par les îles de la Madeleine, qui est partie de Montréal, par les îles de la Madeleine, qui est descendue dans le sud. C'est pas clair parce qu'il y a toutes sortes de témoignages, mais c'est un peu comme aujourd'hui, aussitôt qu'il y avait une route qui était plus intéressante puis moins surveillée, il la prenait. Il y avait l'héroïne qui venait des pays comme par exemple l'Afghanistan, c'était déjà ça. Mais il y avait l'héroïne aussi qui venait du Triangle d'Or, c'est-à-dire du Vietnam, Cambodge,
Thaïlande. Donc, dans les années 1950, il s'est exilé à Cuba. On peut pas vraiment parler d'exil pour Lucien Rivard parce que
c'est pas un exil.
L'exil implique que ça soit forcé, mais enfin, il coupe, disons, les liens avec l'Amérique pour aller sur l'île et puis va commencer à devenir un exploitant de casino. Mais c'est pas de son propre chef qui va faire ça. C'est évidemment la mafia qui va lui demander d'aller s'occuper de ces affaires-là parce qu'il en avait la capacité. Puis il était capable de le faire. Sauf que ça va très mal se terminer, cette histoire-là.
Mais à Cuba, il continue son commerce d'héroïne?
Tout à fait. On dit même que pendant qu'il est à Cuba, il est responsable pour à peu près 75% de l'héroïne qui est transportée vers l'Amérique du Nord par la French Connection. Et donc, il y a un double rôle à ce moment-là. Il fait fructifier l'argent des criminels parce que c'est l'argent des criminels qui se retrouve pompé par les casinos cubains, d'une part. Puis d'autre part, ben, y a-tu vraiment le meilleur des rôles? T'as de l'argent à blanchir, puis t'as la French Connection qui t'approvisionne en héroïne. Donc, tu sais, t'es tout le premier banc dans l'église, là, comme disent les policiers souvent. ça rapporte beaucoup d'argent. Ça lui fait aussi grandir ses liens avec la mafia. Sauf que là, il y a un souci à un moment donné. Il y a la révolution et Fidel Castro va gagner, ravir le pouvoir à Batista lors des coups. Tout le monde, à ce moment-là, c'est le take the money and run. Tout le monde veut fuir Cuba parce qu'ils savent que ce qui les attend, c'est l'assassinat ou c'est un procès sommaire fait par une justice instrumentalisée par le pouvoir. C'est la peine de mort ou finir sa vie dans une prison cubaine qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas un avenir intéressant.
Non.
Alors, Lucien Rivard, criminel futé, payait déjà, lui, 20 000 $ par mois environ à Batista. Hein, pour continuer d'opérer ces trucs, parce que Batista était évidemment corrompu. Semble-t-il qu'il payait Castro aussi, un peu moins d'argent, c'est possible. Alors bref, il est presque assassiné, puis là, il est emprisonné à Cuba. Parce qu'il était resté un peu plus longtemps, parce qu'il voulait s'arranger pour faire sortir l'argent.
Parce que la révolution s'est passée un dimanche, puis lui avait besoin d'attendre le lundi pour que les banques ouvrent.
Pour que les banques ouvrent, ça lui prenait l'argent. Il a attendu un peu trop longtemps. Il a été emprisonné. Et selon les sources de Michel Trudeau, la personne qui va le faire libérer de Cuba, ou qui va intercéder, si tu veux, en sa faveur, est nul autre que Jack Ruby, l'homme qui a atteint mortellement Lee Harvey Oswald à sa sortie du commissariat de police de Dallas au lendemain de l'assassinat de John F. Kennedy.
Fait que Jack
juste
Ruby...
Juste là, tu te dis, wow, l'histoire vient prendre une tournure démentielle.
Fait que le premier indice qu'il y a un lien entre Lucien Rivard et les gens qui sont liés à l'assassinat de JFK.
Ouais, disons que c'est la première piste.
C'est une connexion intéressante. Fait que Jack Ruby sort Lucien Rivard de prison à Cuba, il revient s'installer au Canada, devient tenancier de la plage Idéale à Laval. Michel Trudeau nous parle de cette époque. Fait qu'il arrive au Canada, après tout ça, il ouvre la plage Idéale.
Ouais, ben ça, la plage Idéale, c'était un peu l'endroit de prédilection où les gens allaient pour soit voir des shows, pour faire de la plage, pour se baigner. C'était très, très hot à l'époque.
Est-ce que c'était comme un beach club des années 60?
C'était un beach club, mais avec plus que Justin Bieber. Justin Bieber, il n'est pas venu, mais
pas
à l'époque,
tu avais
les plateuses. T'avais
les plateuses quand même. Hein?
Oui, les plateuses allaient là. T'avais plein d'artistes. Là. Claude Blanchard, c'est sûr. Puis toute cette gang-là était là. Mais t'avais aussi Frank Sinatra. T'avais des grosses vedettes américaines qui allaient
chanter. Good old boys.
Good old boys.
Est-ce que c'est encore là aujourd'hui? Non.
Non.
En fait, le policier à la retraite Robert Côté et ses amis avaient pris l'habitude de fréquenter la plage Idéale sans savoir que Lucien Rivard en était le propriétaire. Voici Robert Côté.
Une poste 11 de sa rue Scherer. On était 3 ou 4 célibataires, policiers célibataires. J'avais 22 ans, là, une dame de 20 ans. Là. Les journées bien chaudes d'été, là, on finissait le matin à 8 heures, on s'en allait à Sainte-Rose, à la plage Idéale.
Puis alors, vous fréquentiez son entreprise?
Oui, sans savoir. Hey, Lucien, il est pas bien correct.
Ça ressemblait à quoi, cette plage-là?
C'était immense. Disons que c'était immense. Il y avait un restaurant, il y avait un bar, évidemment, il y avait un restaurant. Et puis, l'eau devait être polluée au coton.
La plage Idéale, en fin de compte, c'était un front. Lucien Rivard continuait à amener tous ses trafics. On sait qu'il n'était pas dans un seul trafic, une seule forme de trafic. Il n'y avait pas que l'héroïne, il y avait d'autres trafics. Sauf qu'il a mené ses affaires tellement discrètement que ça lui a quand même permis de continuer. Mais en 63, il s'est fait vraiment pincer pour la première fois. C'est Mike Vigil qui va nous raconter comment ça s'est passé.
Well, what happened is that a Rivard associate, Michel Caron.
Mike Vigil explique donc que c'est un associé de Rivard, un dénommé Michel Caron, qui trahit Lucien Rivard. Caron, c'est une mule. C'est un homme qui tentait alors de traverser la frontière du Mexique avec 35 kg d'héroïne de cachet dans sa voiture. Il se fait prendre et malheureusement pour Lucien Rivard, Michel Caron décide de coopérer avec les agents policiers. Il déballe son sac et les autorités arrêtent Rivard et l'envoient à Bordeaux.
At that point in time, the United States indicted Rivard on drug charges and requested his extradition to the United States.
Puis c'est là qu'il va se retrouver mêlé. En fait, on ne pourrait pas dire mêlé, il faudrait plutôt dire qu'il a décidé de causer un énorme scandale politique. Il faut comprendre que la principale hantise des criminels, c'est de se faire extrader aux États-Unis. Le gouvernement américain mandate un avocat à Montréal pour s'occuper des procédures d'extradition. Mais là, cet avocat-là, il est convoqué à un certain moment au cabinet du ministre de l'Immigration à Ottawa. Le chef de cabinet du ministre de l'Immigration propose 20 000 à l'avocat à condition qu'il ne s'oppose pas à la demande de cautionnement de Lucien Rivard. Ça, c'est une chose. Alors, l'avocat refuse la proposition du chef de cabinet. Là, il y a des complices de Lucien Rivard qui commencent à lui passer des coups de fil. Après ça, des hauts fonctionnaires, des adjoints parlementaires qui lui disent que finalement, ben, ce prisonnier-là, Lucien Rivard, est quand même utile au Parti libéral du Canada. Alors, là, Maître Lamontagne, droit comme une barre, il est tanné. Là, il appelle la GRC puis il dit ce qui est en train de se passer. Finalement, on est en train de tenter de le convaincre avec un pot de vin. Alors là, scandale aux communes, ça faut donner la date absolument, 23 novembre 64, il y a les députés à la Chambre des communes à Ottawa, ils révèlent tout ça, les tentatives de corruption faites auprès de l'avocat. Alors, c'est un scandale politique, ça éclabousse tout le monde. Le ministre de la Justice, Guy Favreau, va créer une commission d'enquête à ce moment-là pour faire la lumière là-dessus. Ça sera tellement nocif pour Guy Favreau que finalement, il va être obligé de démissionner.
Okay, attends, je veux juste voir si je peux le résumer. Il a fait aller son réseau. Son réseau s'est activé, puis ils ont essayé de convaincre l'avocat qui est en charge de l'extradition d'accepter des pots de vin, puis de juste laisser mourir l'affaire. Et là, ces gens au placé là, ils étaient liés à Guy Favreau, mais Guy Favreau savait pas nécessairement que ses collègues étaient
Guy
en
Favreau,
train de...
C'est ça, Guy Favreau savait rien de ça, mais je veux dire, c'est lui qui pèle les politiques quand même.
C'est ça. C'est
toujours comme ça. Un prisonnier, tu sais, à Bordeaux, a eu la tête du ministre. Wow.
C'est lourd.
C'est lourd. Lui, il avait compris l'importance du réseau de contact politique.
Et du financement politique.
Et du financement politique.
Oui. Ouais. Quand tu donnais, ben, tu avais quelque chose. Quand tu donnais au parti politique, tu recevais. Puis c'était comme normal. Tu as juste à élire la bonne gang, puis leur envoyer de l'argent. Puis c'était
mais il
correct.
Avait bien compris ça.
Ça, il avait compris ça, mais c'était des sommes d'argent qui n'avaient aucune mesure avec le petit 5$ que les gens pouvaient donner. C'est ça qui arrivait. Ils prenaient le contrôle d'organisation politique.
On revient à la prison de Bordeaux où croupit Lucien Rivard, qui n'est pas du tout content de s'être fait pincer puis qui a perdu espoir que ses contacts politiques vont réussir à le sortir de prison.
Là, en mars 65, il décide qu'il en a plein les bottines de sa peine de prison et il décide de s'évader. Fait que là, il va demander d'aller arroser la patinoire, parce qu'il y a une patinoire à Bordeaux.
Mmh.
Un beau jour de printemps où la température est pas du tout sous le point de congélation. Donc, alors... avec le boyau, on raconte qu'ils ont réussi finalement, le boyau avec lequel ils devaient arroser la patinoire, ils ont réussi à se hisser de l'autre côté de la palissade de Bordeaux. Mais ça, c'est la version des médias à l'époque. Michel Trudeau est pas tout à fait d'accord avec ça.
Pourquoi cette histoire-là a tenu, ça c'est intéressant pour des journalistes, hein? Pourquoi ça tient si longtemps, des fake news comme ça? Il y avait pas de fake news dans le temps, tout était vrai. Mais en réalité, c'est qu'il a soudoyé les gardiens et puis il est sorti par la porte.
Wow! Pourquoi on sent le besoin?
Entre autres, il avait fait faire une tarte aux pommes parce qu'il y a un des gardiens qui aimait la tarte aux pommes. Oui,
on sait tout ce que ça apprend.
Oui, avant de sortir, il a donné une tarte aux pommes.
Selon la légende, en s'échappant, Lucien Rivard le co-détenu avec lequel il s'est échappé ont comme détourné une voiture, un carjack, comme on dit. Ils ont donné de l'argent au propriétaire de la voiture volée pour qu'il se paie un taxi après. Gentleman, quand même. Mais plus tard, on a découvert que tout le monde se connaissait. Alors, c'était vraiment un récit qui semblait, en tout cas, monter vraiment de toutes pièces.
Et cette histoire-là, tout ce qui entoure cette histoire-là, c'est un des seuls moments flashy de Lucien Rivard. C'est vraiment la seule fois qu'il s'est fait connaître du public québécois. Et ça contribue à faire de lui un personnage, je dirais, fort sympathique auprès des Québécois de l'époque.
Ce qui est super intéressant dans ton docu, c'est les interviews de l'époque, au départ. Moi, je trouve que ça donne toute la mesure
du piédestal sur lequel on pouvait placer certains personnages. Moi, il y a une citation. C'est un gars qui dit, il devrait se lancer en politique.
Ouais, ouais.
Non, mais
ouais.
C'était brillant, ça, de faire
mais
ça.
Mais encore là, on est dans les années 60. On sait que c'est l'émergence du FLQ. C'est le début du Québec qui revendique son identité puis qui revendique sa place. Aujourd'hui, c'est le contraire, là, dans le sens que c'est mal vu, même par certains Québécois. Mais à l'époque, les Québécois francophones étaient des ouvriers. Dans la puis les exceptions, c'est où il était médecin, il était curé, où il était avocat, mais tu sais, c'était quelques exceptions.
Mais le crime organisé avec Lucien Rivard de l'époque, c'est un peu aussi justement affranchi de
ben,
cette
c'est
même...
ça. Donc les gens, Lucien Rivard, c'est un héros. Ouais. C'est un petit Québécois. Puis je pense qu'il y en a un qui dit ça, je me souviens plus, mais dans le documentaire, c'est un bon petit Québécois.
Un bon petit Québécois.
Un bon petit Québécois qui, lui, m'a dit aux Anglais, là, tu sais, tu vas lui montrer aux Anglais qu'on est capable de faire des choses.
Puis pendant tout ce temps qu'il est en cavale, Lucien Rivard surfe sur cette réputation. Il passe 136 jours en cavale. Il envoie des lettres aux politiciens. Il fait rire les gens, vraiment. Là, c'est...
Puis Mike Vigil, lui, se souvient d'une lettre que Lucien Rivard avait envoyée à Lester B. Pearson, le premier ministre de l'époque. Et dans cette lettre-là, il avait écrit « La vie est courte, je ne vais pas la passer en prison ». Fin de la citation.
« Life is too short ». And I don't intend to spend the rest of my days in prison.
Donc, il a eu l'intelligence à ce moment-là de poster ces lettres-là à plein de gens, mais en les postant de partout dans le monde. Donc, les autorités pensaient qu'il était en cavale à l'étranger, mais il était où? Dans un chalet à Châteauguay. Et c'est là que les policiers ont réussi à le recapturer.
Ça l'a fait notre...
Et c'est là que Robert Côté devient impliqué. Robert Côté, vous l'avez entendu au début, c'est un retraité de l'escouade tactique du SPVM qui était là pour l'arrestation de Lucien Rivard, un des rares policiers toujours vivants à l'avoir côtoyé. Je rappelle qu'à ce moment-là, Lucien Rivard est un fugitif. Il a l'affection populaire, mais les autorités veulent absolument lui mettre la main au collet pour l'extrader aux États-Unis.
Salut, Bridge, comment ça va? Ça va bien?
Oui.
Good.
Vous
avez
juste pour le café?
Oui. Bon, je viens d'en prendre un en plus. Ah.
Je dois dire que pour un homme qui a passé sa vie à faire sauter des choses et à désamorcer des explosifs pendant la crise d'octobre, Robert Côté est d'une gentillesse incroyable.
Au fond, il nous a raconté comment, pendant la cavale de Lucien Rivard, on l'a recruté pour aller l'arrêter.
Le 16 juillet, c'est un vendredi, vers 14 heures, on reçoit un appel, encore là, une demande d'assistance. La GRC et la Sûreté du Québec, mais le dossier était fédéral. Lucien Rivard, il est considéré comme un doux, un paisible, mais on ne sait jamais. Alors, je suis convoqué, moi, à la GRC, salut Sainte-Catherine, puis on me donne le briefing, on pense à ça. Alors, Lucien Rivard, il est à Maple dans un chalet, et puis on va aller l'arrêter.
Donc, ils arrivent sur le site, ils n'ont pas de walkie-talkie, ils doivent se parler tout bas pour surprendre Lucien Rivard, qui, lui, est couché en train de se faire chauffer la couenne.
Mais il n'était pas armé, on savait, il n'y avait pas vraiment d'urgence.
Il était juste en même maillot de bain, là.
C'est ça, donc,
les policiers entrent, tout est tranquille, ils jasent, et après environ 30 minutes, ils sortent avec Lucien Rivard et son comparse en menottes.
Le gars, il était peut-être sympathique, il a envoyé des lettres. Là,
au premier ministre, au solliciteur général aussi.
C'est ça. Mais pour moi, c'est un bandit, c'est un criminel, un trafiquant de haut niveau.
Voici Michel Trudeau.
Le point intéressant de toute cette recherche-là qu'on a faite, c'est que Lucien, au début des années 70, revient après avoir purgé une petite portion de sa peine à Lewisburg, en Pennsylvanie, où il était incarcéré avec Jimmy Hoffa, ce qui est assez intéressant. Et qu'est-ce qui arrive au début des années 70? La commission d'enquête sur le crime organisé, Lucien Rivard n'est jamais interrogé à la commission d'enquête sur le crime organisé. Le criminel le plus important probablement de l'histoire du Québec n'a jamais été interrogé à la commission d'enquête sur le crime organisé.
Alors qu'ils auraient eu toutes les raisons de le faire, évidemment.
Notre théorie, c'est qu'il y avait de la protection.
Lucien Rivard, puis tu vas me corriger si je me trompe, là, m'apparaît d'une finesse d'esprit puis d'une intelligence remarquable.
Sans aucun doute.
Bon, alors, s'il était si fin que ça, puis si brillant que ça,
savait très bien comment éclabousser et nuire à plusieurs agences si d'aventure on l'amenait devant une commission X ou Y, devant la SECO, exemple, ou devant...
Mais il aurait pu, comme ça s'est vu avant, il aurait pu l'assassiner, mettons. Puis il dit, bon, OK, il est disparu, mais il était utile. Il était pas juste dangereux, il était utile. La mafia était extrêmement puissante, parce que quand on dit 10 milliards d'héroïne en 10 ans, c'est de l'argent, là, dans les années 60, là, il était très puissant. Donc, quand tu es capable d'assassiner un président américain, on peut s'imaginer à l'époque qu'est-ce que tu peux faire sur le gouvernement canadien.
Ouais.
Tu sais, c'est...
Est-ce que vous pensez que c'est certain que Lucien Rivard est impliqué dans l'assassinat de JFK?
De sources. Plusieurs sources. Et des sources très proches.
C'est qui les sources?
Les billets d'avion des trois tireurs qui étaient là, ça a but. C'est Lucien qui a fourni les billets d'avion et les passeports.
Ça, vous en êtes certain?
Ben, moi, je n'étais pas là, mais c'est de ces sources-là, oui.
Qui sont ces sources?
Ça, on peut pas, je ne vais pas dire ça. Parce que on va attendre que les archives à Washington soient...
Déclassifiées.
Ouais.
Wow.
Ouais.
Au fond, la première théorie sur le meurtre de JFK, c'est que c'est un loup solitaire qui s'appelait Lee Harvey Oswald qui l'a tué avec une carabine italienne de marque Carcano à partir du dépôt de livres de Dallas au Texas avec un angle complètement impossible puis de plusieurs coups qui n'ont pas pu toucher la cible. C'est là qu'on a commencé à penser qu'il y avait plusieurs tireurs. Effectivement, on voit très bien au visionnement des vidéos sur l'assassinat de JFK qu'il y a plus qu'un tireur. Sa tête penche par en avant, après ça par en arrière. Il y a la fameuse théorie de la balle perdue à ce moment-là. Donc, tout ça devient impossible. Donc, on sait qu'il y a minimalement deux tireurs et sûrement trois. Et ces gens-là ont fui, évidemment, la scène faisant porter le chapeau à Lee Harvey Oswald qui, au lendemain de son assassinat, dit « I'm just a pigeon ». Je ne suis qu'un pigeon, donc je suis le porte-chapeau de tout ça.
Et pour l'empêcher de parler, Lee Harvey Oswald va être tué par
Jack Ruby. Donc, afin que Lee Harvey Oswald ne vire pas sa veste, si tu veux, puis évente ce qui, manifestement, est un complot de meurtre là, contre le président JFK.
Fait que c'est un assassinat qui, pour vous mettre dans une chronologie qui fonctionne, a eu lieu en 63, donc avant que Lucien Rivard se retrouve à Bordeaux. Nous, on n'a pas réussi à confirmer toute cette histoire, mais selon Michel Trudeau, qui nous dit avoir tout ça de sources sûres, Lucien Rivard aurait collaboré avec Jack Ruby pour aider les trois présumés meurtriers de JFK à fuir le pays après l'assassinat. Pourquoi il aurait fait ça?
Ben, pourquoi? Parce qu'il travaillait, parce qu'il était un intercesseur, il était un courtier. Il aurait facilité la fuite des gens qui ont participé à ce complot-là, qui étaient liés à la mafia, qui étaient liés...
Donc, ce qui s'est passé, c'est que la mafia qui avait aidé à faire élire JFK était fâchée contre lui parce qu'il s'était ensuite retourné contre eux, légiférait contre eux. La théorie qu'avance Michel Trudeau, c'est donc que Lucien Rivard, étant mêlé à tout ce réseau de crimes organisés, aurait joué un rôle là-dedans, qui aurait en fait fourni les billets d'avion, les faux passeports aux tireurs soupçonnés d'avoir tué JFK.
John F. Kennedy, sa campagne avait bénéficié des capitaux mafieux d'abord, et là, son frère Bobby arrive aussi dans le portrait Kennedy qui veut réformer un peu tout le système, puis décide, dans le fond, de s'en prendre à des gens qui étaient autrefois des amis du père Kennedy.
Ben, ça, c'est intéressant, parce que le père Kennedy a financé la campagne de son fils avec l'argent des Teamsters qui étaient noyautés par la mafia. Puis qui était, à ce moment-là, au Teamster, c'est Jimmy Hoffa, qui a fait de la prison avec Lucien Rivard.
Qui repassait ses pantalons. Jimmy Hoffa, donc, un chef syndical américain très connu, qui est disparu en 75, qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. C'est une grande légende américaine.
Écoute, ce gars-là fait partie... En fait, je peux pas croire qu'il est... En fait, je peux.
C'est comme Zelig, le film de Woody Allen, Zelig. On voit Zelig partout. Ou Forrest Gump, que tu vois partout. C'est un peu ça. C'est le Forrest Gump québécois, mais intelligent.
Mais t'imagines à quel point il a traversé ces époques-là importantes, puis il s'en est... C'est peut-être...
Indemne.
Dans le fond, c'est ça. Puis il s'en est tiré.
Il est mort de vieillesse.
Incroyable.
Libre. Les documents vont être déclassifiés quand? Ça devrait bientôt?
22, 23.
Ah! Vous ouais, marquez ça, hein?
Exactement la
date. En autant qu'ils ne sont pas caviardés à 50%.
C'est à mon agenda.
Ouais.
Pour de vrai?
Pour vrai.
En fait, on disait 2022, mais c'est 2021. Il y en a déjà vraiment beaucoup qui sont sortis en 2017, mais Donald Trump a repoussé la date de sortie de ces documents-là, qui est à peu près la date qu'on doit tous encercler au calendrier. En tout cas, moi...
On doit tous encercler au calendrier.
Oui, parce que moi, JFK, moi, l'assassinat de JFK, je pense que je lis là-dessus depuis que j'ai 8 ans, genre. Puis après ça, ben j'ai lu plein de bouquins sur JFK, puis je suis allé 3 fois à Dallas, puis j'ai acheté des livres, la commission Warren, puis à chaque fois que je vais à Dallas, je fais comme un genre de pèlerinage.
C'est comme un peu malsain, Félix.
Ben non, parce que, je veux dire, c'est le plus grand moment, c'est un des plus grands moments politico-judiciaires de l'histoire contemporaine.
Mais le faire du tourisme JFK, c'est intense.
Ben écoute, si tu vas à Dallas, près de la bibliothèque où JFK a été assassiné, d'abord, il y a un musée.
Mais 3 fois, de deux, là, il y a des vendeurs. Allé 3 fois.
Oui, parce que c'est un lieu qui m'inspire beaucoup.
Bon, mais dis-moi, c'est quand même...
C'est drôle, j'y trouve la paix dans ce lieu-là.
C'est drôle, effectivement. Mais c'est quand même surprenant qu'un personnage qui est lié à JFK, un Québécois avec une histoire aussi abracadabrante, soit si absent du folklore québécois, non?
Oui, c'est drôle. Il y a plein de gens qui ont essayé de le ressusciter, mais comme c'est un personnage tellement secret, il y a pas mal juste Michel Trudeau qui a réussi à vraiment nous donner quelque chose de concret.
C'est un homme discret. Il n'a rien laissé. Il a apporté une aisance à la femme qu'il aimait. Puis il n'y a pas eu d'enfant. Puis c'est tout.
En 2021, quand tu vas finalement avoir accès à tous ces documents-là, est-ce qu'on peut prévoir... je pense qu'on va être à saison 3 de Narcos PQ. ouais. Série spéciale sur les traces de Lucien Rivard.
Ou sur les traces de JFK, parce que...
parce que t'es obsédé.
Parce que je suis obsédé par JFK. La semaine prochaine, à Narcos PQ.
On vous présente deux Québécois qui ont fait affaire avec El Chapo Guzman, grand baron du cartel Sinaloa au Mexique, un des cartels les plus sanglants de la planète. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement 5. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin.
Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio.